percer si facilement la mer. Chérine n'en entendit donc jamais parler, pas plus qu'elle n'entendit la voix désespérée du très-puissant djinn lui murmurer « Ma petite, ma chère petite, je t'en prie, ne viens pas. » Mademoiselle Sorouche, pouvez-vous maintenant me raconter les événements qui ont précédé l'agression dont votre compagnon a été victime ? Oui. Ça a commencé une semaine avant, quand nous sommes allés dîner pour la première fois dans ce restaurant. Durant son premier séjour au mois de juillet précédent, elle a été heureuse, elle s'en souvient. Alban et elle occupaient seuls la résidence des Genevais. Le matin, alors qu'il dormait encore, elle allait à la plage à pied, et elle lisait allongée sur le sable, en plein soleil, attendant que la chaleur fût devenue insupportable, pour entrer dans la mer, faire quelques brasses, et se laisser porter par les vagues, le regard perdu au-dessus de la Pinède vers le sommet bleu des montagnes qui se confondait presque avec le ciel d'été. L'après-midi, elle restait travailler sur la terrasse de la villa, s'interrompant parfois pour plonger dans la piscine ou faire l'amour avec Alban dans un canapé du salon, la cuisine, à même le sol, n'importe où. Et il dînait le soir, sur le port, avant d'aller écouter jouer les musiciens du bamboléo. C'est là qu'elle a croisé pour la première fois le chemin d'Alexandre Romani qui est venu saluer Alban et leur a fait servir une bouteille de champagne. Et il n'y avait pas grand monde. Les touristes craignaient encore la pandémie, et nombre d'entre eux avaient préféré annuler leurs vacances. Mais cette année, en ce début de mois d'août, ils n'ont plus peur ni du virus, ni des bêtes qui sont retombées dans leur stupeur silencieuse. Ils sont bruyants et surexcités, ils se pressent partout, en ville, sur les plages, dans les bars, les cabarets, les boîtes de nuit. Leur présence oppresse Chérine. Au cours des confinements successifs, elle s'est habituée à l'intimité et à la solitude. Elle y a même pris goût, au point que les rassemblements d'êtres humains suscitent en elle une forme de crainte mêlée de dégoût. Elle est tout particulièrement horrifiée par la vue de bouche inconnue qui lui est imposée à chaque fois que quelqu'un retire son masque, et il lui semble alors qu'on lui fait violence en exhibant sous ses yeux cette cavité répugnante, énorme, obscène, avec son agencement ostentatoire de membranes, de chair et de muqueuses gorgées de sang. Molle, humide, laissant apparaître, dans leur incessante mobilité, la turgescence d'un tentacule écarlate et des éclats d'ivoire jaunis luisant de sécrétions visqueuses, comme s'il ne s'agissait plus d'une partie de visage humain, mais d'une espèce de cloaque, l'organe génital de quelque forme de vie monstrueuse, une aberration surgie d'une planète lointaine. À moins, pense Chérine, que la longue disparition des bouches sous l'étoffe des masques ne lui ait enfin permis de prendre conscience par contraste pour la première fois de la monstruosité propre à toute forme de vie, tout particulièrement la monstruosité de l'anatomie humaine qu'auraient dissimulé la plupart du temps les voiles opaques du désir et de l'habitude. Chaque matin, en prenant le petit déjeuner sur la terrasse au bord de la piscine, elle fixe malgré elle son regard sur la bouche d'Arthur et de Charlotte, les amis qu'Alban a jugé bon d'inviter pour ses 2 semaines de vacances. Et elle en a l'appétit coupé. Les lèvres de Charlotte sont constamment liées à leur commissure par des filaments de salive qui s'allongent et s'affinent, se rompant quelquefois dans une minuscule explosion silencieuse, pour se reformer aussitôt alors qu'elle parle tout en mastiquant vigoureusement un croissant dont de fines pellicules du feuilletage restent collées à ses incisives, et qu'Arthur s'évertue une fois de plus, et comme chaque matin, à faire la démonstration de son incapacité à manger ses œufs au plat sans laisser une bonne partie du jaune lui couler sur le menton où il tente de le récupérer d'un immonde coup de langue furtif. Parfois, elle ne peut même plus regarder la bouche d'Alban qui mange pourtant avec une propreté exemplaire sans une certaine répulsion, et elle juge prudent d'éviter de se regarder elle-même trop longtemps dans le miroir. Tout ce qui est humain lui répugne. Elle regrette de n'être pas faite comme les djinns, d'une subtile chair de feu. Si intransigeant qu'on puisse être en matière de responsabilité morale, on ne saurait, sans se montrer aussi injuste que déraisonnable, blâmer qui que ce soit de posséder des lèvres, une langue, un palais, des gencives, des dents, et de s'en servir en public, fût-ce avec une désinvolture éhontée, pour parler ou se nourrir. Chérine le sait bien. Mais, particulièrement